Accès libre avec Luc Fortin.
Jean-Sébastien vient de me crier, tout le monde est là. Êtes-vous là? Si oui, faites-nous signe. Faites-nous signe, on est content de vous savoir là, que ce soit en direct sur Canal M ou peut-être via une plateforme de balado. Jean-Sébastien est de retour, lui qui était en vacances. Moi, j'étais en vacances avec Christiane la semaine passée. Pas avec, là, mais chacun de son côté. Et puis, tout le monde est là aujourd'hui, même le petit croissant, c'est magnifique. La petite averse qui va peut-être nous soulager quelque peu. Et qu'on aille ça. Cet été-là, c'est tout un été. On va parler sport. Tiens, une qui, peut-être, a moins de difficultés à subir les canicules. C'est Aurélie Rivard, qui passe sa vie dans l'eau. On va causer avec François Beauregard de Benjamin Victor Rousselot. Ça, c'est un gars qui en a quand même fait pas mal pour les aveugles du Québec au 19e. On y revient, Christiane, qui nous donne des petites nouvelles glanées à gauche et à droite. Et on va parler de transport adapté du côté de l'Université de Montréal, puisque oui, il y a un système de transport adapté offert par l'UdeM. Monsieur La Liberté, comment allez-vous?
Je vais très bien. Monsieur Fortin, comment allez-vous?
Ça va bien. Je pense que ça s'entend. Je pense que, bon, t'as vu que j'étais content de te voir. Le monsieur en bas, t'as vu que j'étais content qu'il me donne maillot avec mon croissant. Christiane est de bonne humeur. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe et on aime ça. Par contre, si je me fie à un article du journal Métro, la présidente et le vice-président du groupe Handicap, Accompagnement, Regroupement, Recherche et Projet. Eux sont un petit peu moins contents. Myriam, Simon, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous-même?
Oui, merci. Myriam Massicotte, qui, elle, est présidente. Simon Faneuf est vice-président. Bon, c'est quoi ce nom-là? Premièrement, là, juste le nom. Le groupe Handicap, Accompagnement, Regroupement, Recherche. C'est qui êtes-vous? Et projet. Ah. Merci Jean-Sébastien. Et projet.
On est des personnes en situation de handicap hyper motivées. Okay. Et au lieu de chialer, comme on dit là, on a voulu relever des défis de façon très pratique et avec la bonne humeur et le dynamisme qui nous caractérise. Voilà en quelques mots. Et on a voulu prendre cette problématique comme des défis et des bons moments à passer ensemble pour travailler avec tous les partenaires qui constitue l'Université de Montréal. Et il y a de quoi faire.
Simon Faneuf, lorsqu'on parle de recherche et projet, quel type de recherche, quel type de projet en général tient les membres de l'association occupés?
En fait, nous, il faut savoir qu'on vient à peine d'être reconnus. Ça date d'un peu avant la pandémie. Donc, présentement, on n'a pas commencé officiellement à entamer des projets, mais notre but en tant que regroupement, c'est plus donc de faciliter l'accessibilité aux étudiants en situation de handicap à l'Université de Montréal.
OK.
Et de faire des projets en lien avec ça.
Alors, parlons-en de certains de ces étudiants que vous desservez. Je faisais état d'un article récent du journal Métro qui parle de plusieurs étudiants en situation de handicap qui déplorent des lacunes dans l'offre en transport adapté du site là, ou sur le site de l'Université de Montréal. Peut-être nous expliquer un peu les problèmes, qu'est-ce que les étudiants vous disent. Myriam?
Oui, alors on a un système très particulier parce qu'il n'est effectif qu'à un certain moment de la journée et on a un seul véhicule.
Oh.
Donc, le pauvre chauffeur, là, il n'arrête pas. Le matin jusqu'au soir, c'est une navette ininterrompue. Donc, pendant le temps de la pandémie, ça s'est calmé, là. Mais souvent, il circule entre les différents pavillons qui sont plus ou moins espacés. Et là, c'est surtout l'hiver que nous souffrons beaucoup parce que les routes entre les pavillons sont vraiment délabrées. C'est une catastrophe.
Les réservations fonctionnent-elles?
Les
réservations.
Les réservations, il faut. On appelle le jour même.
Le jour même, OK.
Ou la veille. Non, c'est très pratique de ce côté-là. On n'a pas de restriction d'appel. On peut attendre parfois 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, suivant où se trouve le véhicule. Mais le chauffeur est quelqu'un de très, très ouvert et de très disponible. Et il fait en sorte que les étudiants soient quand même assez à l'aise.
Ouais, Simon?
C'est le service qui est négligé.
Ouais. Simon?
Je tenais juste à ajouter aussi que, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que nous, on a notre horaire de cours qu'on va remettre au soutien aux étudiants en situation de handicap. Et puis, le service nous permet d'avoir du transport en fonction de nos horaires de cours. Mais le problème en soi, c'est comme ma collègue qui a un seul chauffeur, mais aussi, c'est que l'horaire de disponibilité, c'est de environ 7h30 le matin à 16h30 le soir.
OK, donc tu ne peux pas avoir de cours après, de soir.
Oui, c'est ça.
Après, pour ceux qui ont des cours, disons, 29h jusqu'à 22h, ils doivent prendre le transport de la STM.
Ouais. Est-ce que le service est disponible également les week-ends? Parce qu'on peut avoir des cours le samedi.
Non.
OK. Alors, ça, c'est un autre problème. Est-ce que j'ai lu qu'il était question d'appel d'offres?
Oui, puis ça ne va pas fonctionner.
Oh, OK.
On a appris dernièrement, j'ai appris que ça ne va pas pouvoir se faire pour le moment. Pourquoi? Il y a des enjeux économiques, bien sûr. Et puis, des choses qui nous dépassent. Hein. On n'est pas, on n'a pas tous les éléments en main. Mais il faut dire que les infrastructures sur l'université, sur les différents campus, sont défectueuses. Par exemple, au niveau du registre ARIA, pour la petite anecdote, on nous fait rentrer à l'envers. C'est-à-dire que on nous fait rentrer de façon à ce que les portes qui s'ouvrent, elles vont s'ouvrir du mauvais côté des portes de l'université. On est sur la route. Donc, quand il y a de la neige et du verglas, eh bien, on n'arrive pas à nous débarquer correctement. Ça, c'est une grosse problématique.
Ouais.
Alors que normalement, le véhicule devrait se trouver que les portes du véhicule s'ouvrent sur le trottoir directement pour rentrer dans les locaux. Et ça, là, c'est une grosse problématique de conception. Et on a beaucoup de problématiques de ce genre-là. Et c'est dangereux et pour le chauffeur et pour l'étudiant ou pour le type de handicap. Ça, c'est la grosse problématique, en fait.
Toujours selon le même article, la représentante de l'université qui a été questionnée à cet effet-là dit qu'il, le département, n'a pas reçu de plainte officielle. C'est quoi? C'est que les étudiants sont trop passifs? Comment motiver vos troupes? Parce que j'ai l'impression que on dirait qu'elle dit les gens sont satisfaits, elle n'est pas au courant de ces doléances que vous recevez.
Non, c'est pas vrai. Non, on a la chance d'avoir aussi d'autres associations étudiantes, genre la FECUM, qui a relayé l'information auprès du rectorat, je crois, par l'entremise d'un mémoire. Des étudiants en parlent au niveau du SECH, c'est le service aux étudiants en situation de handicap, et ça bloque quelque part.
Okay.
L'information ne va pas jusqu'au bout, mais ce matin, j'ai réussi à avoir quelqu'un de proche du recteur et nous allons peut-être donner suite à cette entrevue aujourd'hui parce qu'on va en parler justement et on propose d'aller sur le terrain avec des personnes du rectorat et ainsi de suite pour voir où sont les grosses problématiques. Nous ne voulons pas faire du blabla. Nous ne voulons pas faire des mémoires, mais nous voulons faire des applications directement sur le terrain de façon positive et constructive. Parce qu'on se rend compte que l'information ne va pas jusqu'au bout. Mmh. C'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Et puis c'est vrai que nous, les étudiants en situation de handicap, parfois on n'a pas la force d'aller jusqu'au bout de plaintes. Et puis on n'aime pas les plaintes parce que c'est gênant.
Ouais,
on n'arrive pas à les formuler.
Oui, puis souvent, on a de l'énergie déjà. Une obligation d'énergie à donner ailleurs dans notre vie, ce qui fait qu'on a peut-être un petit peu moins lorsque vient le temps de se plaindre. Là.
Oui.
Est-ce que vous desservez également des employés en situation de handicap ou uniquement des étudiants?
Oui. On va se focaliser d'abord sur les étudiants, mais nous avons conscience qu'il y a des professeurs en situation de handicap, Il y a des employés au niveau de l'université qui sont aussi en situation de handicap. Et là, il y a une culture du monde, de la situation de l'handicap qui n'est pas encore acquise, qui est en train de d'arriver aux oreilles, là. C'est en chemin. C'est pas encore acquis. Et donc, on a un gros travail à faire pour travailler ensemble.
Simon, est-ce que vous savez si l'Université de Montréal est la seule université à offrir ce type de service sur le campus?
Honnêtement, je l'ignore, mais parce que je ne me suis pas renseigné. Mais dans le fond, c'est sûr, nous, ce qu'on aimerait, idéalement, c'est que l'Université de Montréal trouve des moyens de donc qu'il y ait plus de chauffeurs pour les étudiants.
Ouais.
Parce que ce que je remarque, c'est que souvent, en mi-session et en fin de session, les chauffeurs courent comme des poules pas de tête. Parce qu'il y a beaucoup d'examens qui arrivent et là, les étudiants doivent aller d'un point A à un point B. Puis ça fait beaucoup de stress, autant pour les étudiants que pour les chauffeurs. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Mais c'est sûr que si on avait plus de ressources, les deux camps seraient moins, disons, sous pression pour se préparer puis aller d'un endroit à l'autre.
Myriam, vous avez fait état de différents regroupements sur le terrain. Est-ce que, bon, je pense au service ou au soutien aux étudiants là, en situation de handicap de l'UdeM, est-ce qu'on sent un désir d'appui de la part des autres regroupements qui viennent en aide aux étudiants que vous représentez?
Il faut beaucoup de dialogue pour ça. Donc, le CH, oui, a une certaine activité qui marche bien, mais elle a quand même des lacunes, parce que sur la réalité du terrain nous dépasse tous, hein, c'est sûr.
Donc, vous pensez à quoi quand vous dites ça? Que la réalité sur le terrain nous dépasse tous?
Il n'y a pas de suivi vraiment après. On entame une action ou on entame des décisions. Sur le papier, ça va, avec des experts, ça va. Mais après, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Le suivi terrain, après, auprès des étudiants, n'est pas forcément là. Et on n'arrive pas forcément à comprendre la problématique de la situation de handicap des étudiants. C'est une grosse problématique. On la découvre encore.
Ouais,
hein.
Ouais.
Donc, c'est pas concret parfois les services que l'on peut rendre. On va pas jusqu'au bout du suivi pour dire voilà qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous en pensez. Il y a des choses qui se mettent déjà en place, mais c'est pas suffisant.
Mais sans vouloir vous dire quoi faire, là, loin de là, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de savoir s'il y a des services similaires dans d'autres sur d'autres campus et qu'est-ce que les étudiants là-bas ont réussi, ont obtenu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas obtenu. Parce qu'effectivement, je veux dire, quand tu te déplaces, quand tu es au poste secondaire, tu veux pas avoir à dépenser de l'énergie sur te rendre au cours. Tu as déjà assez d'énergie à tes apprentissages. Il me semble que le reste, c'est la base, là. C'est le strict minimum.
On l'a pas compris, ça encore. On l'a pas compris encore. Ouais. On l'a pas compris. Alors, ça demande de notre part d'être très ouvert, d'aller vers les autres. Alors, parfois, on n'a plus cette force-là. Mais moi, je parle beaucoup, hein, c'est mon défaut, mais c'est un défaut qui est vraiment un service parfois. Donc, pour moi, c'est assez facile et je me rends compte que les étudiants, ils ont besoin de l'entendre et ils nous le disent. Ils nous disent, mais pourquoi vous nous le dites pas? Pourquoi on n'est pas au courant? Parlez-nous-en davantage. Ils attendent ça de nous. Et donc, on vient juste de naître, hein, donc on n'a pas encore fait beaucoup de choses, mais ils attendent ça de nous et il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'attente. Et ça, c'est un terrain qui est très propice et il y a des enjeux qui sont très positifs de ce côté-là.
C'est sûr. En tout cas, Myriam Massicotte, Simon Faneuf, bonne chance avec le projet ARP et j'espère que cette situation dont on vient de discuter là, va se résorber.
Merci beaucoup.
Monsieur de la Liberté, vous, le repère tranquille, est-ce que... Parce que, bon, moi, je travaillais à la radio communautaire de Longueuil quand ça a sorti. Et je me demande s'il n'y a pas eu 6, sinon 7 pièces de cet album-là qui ont roulé. Est-ce que vous étiez Vallière dans ce temps-là? Est-ce que...
Repère tranquille, ça c'est 2006. Je regarde rapidement là, les pièces de cet album-là. Et puis non, ce n'est pas non, pas tant. J'étais plus marginal et dans la scène underground à ce moment-là.
Ok, c'est vrai que ta coupe de cheveux peut laisser présager ça. Ben, moi, samedi, quand je faisais mon choix musical, je me posais tellement la question, laquelle choisir?
Fait que mon sort traîne encore à soir dans les cafés les arts. Ça tape du fond, proche du trottoir. J'écoute la muse puis je pense à toutes sortes d'histoires. La serveuse paye au comptoir. Mais qu'est-ce que je fais encore à soir dans le café des arts? Toi est autour de minuit moins quart. Y'a le temps qui passe juste en face de l'opport. Le sort est pas mal désert. Puis t'arrives au hasard, t'arrives tout le temps de nulle part. Tu t'assois puis on jase, et mes angoisses se tassent. Café les arts, au cœur de mon quartier, ça fait de mon corps. Je reste tranquille et je suis jamais en retard pour flâner au lézard. Puis t'arrives au hasard, t'arrives tout le temps nulle part. Puis on jase, et mes angoisses se tassent.
Que je posais à Jean-Sébastien, à savoir est-ce que le Café Les Arts est encore ouvert? Jean-Sébastien, tu as jusqu'à E28 pour nous trouver la réponse.
J'ai peut-être déjà la réponse grâce à mes skills avec Google. Selon Google Maps, en tout cas, si ça a été mis à jour il y a une semaine, il serait présentement ouvert, bon. Mais le service aux tables et la livraison ne sont pas disponibles.
Mais là, OK, j'imagine on rentre, on prend un café puis on sort.
Cafélésarts.ca si vous êtes intéressé.
Salut Aurélie Rivard, comment vas-tu? Faut que tu dises bonjour Aurélie. Bonjour Luc. Oh non, elle aime pas Rivard. Elle aime pas Vallière. Soit ça ou un parti en pleine course au Café des Arts. Ben écoute, Jean-Sébastien, remets-nous une petite Vallière. C'est vrai que t'as pas l'album, hein, mais fais du temps. OK. D'accord. Non, en fait, on voulait savoir. C'est un article qui m'a mis la puce à l'oreille. Vous allez voir dans mes questions à Aurélie, j'ai un petit peu de difficulté à la suivre. En fait, c'est qu'elle retombe en vacances. Puis elle se plaignait dans l'article qu'elle a trouvé ça dur de pas nager. Puis là, elle nage quelques semaines, puis elle retombe en vacances. Alors je voulais savoir qu'est-ce qui se passait avec son entraînement. Elle qui a déménagé. Également, et bon, merci parce que j'ai déjà été meilleur pour faire du temps. Madame Rivard, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi cette idée-là, le tempo Vallière, là? C'est pour ça que tu as raccroché, là?
Oui, c'est ça. ça me tentait de faire un petit peu de challenge dans
ce film. Tu vas bien?
Ben oui, toi. Oui,
merci. Là, dans l'article, dans quelques articles, on voit que tu es rendu à t'entraîner à Québec, mais en général, tu vis à Montréal, c'est un peu ça?
C'est un peu ça,
oui. OK. La dernière fois où nous nous sommes parlé, nous étions le 23 mars. Nous causions de la difficulté de garder l'intensité dans l'entraînement, sans vraiment savoir si les Jeux allaient ou pas avoir lieu. On se doutait que, d'ailleurs j'avais dit dans l'entrevue, moi je pense que dans les 24 heures, ils seront annulés. Finalement, ça a été dans les 4 heures qui ont été annulés. L'après-midi n'était pas fini, que déjà c'était réglé. Mais là, la semaine dernière, j'ai lu que le comité des Jeux de Tokyo a dit pas de vaccin, pas de jeu. Alors, vous êtes encore dans la même situation où on veut se donner à fond, mais on sait pas trop. Comment tu vis ça?
Ben en fait, toute mon énergie va à ne pas y penser.
OK.
Puis à faire semblant que comme tout va se dérouler comme prévu. Parce que sinon, on va virer fou, là. Parce que tout le temps, quelque chose, tu sais, ce que ça nous a prouvé, en fait, depuis le moment, justement, c'est que ça change constamment, puis ça peut encore changer d'une minute à l'autre. Fait que ça sert à rien de planifier mon horaire autour de ça, parce que s'il y a une décision qui se prend demain, ça se peut que ça change le lendemain. Mm-hmm. Donc, dans le fond, pour être certain d'être capable d'être productif à l'entraînement puis de rester mentalement équilibré, faut vraiment juste faire semblant que tout va bien puis que les Jeux vont aller de l'avant comme prévu.
Je me trompe ou tu as trouvé ça difficile?
Ben oui, j'ai trouvé ça difficile. ben même encore aujourd'hui, là, si je pense trop, c'est pas le fun. Là. Mais oui, parce que moi, je veux dire, pour la première fois, mon expérience vaut rien, parce que j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Là. Mm. Fait que c'est tout nouveau. Puis, je veux dire, surtout, la vie d'un athlète, c'est assez routinier. Je veux dire, on sait tout le temps qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on va faire. Tout est mesuré au cours de tour. Les détails sont prévus. Quand on est en voyage, quand on se prépare pour une compétition, je veux dire, on prévoit presque tous les scénarios. On a une solution. Puis là, pour la première fois, ben, on n'en a aucune, puis personne ne le sait, puis il n'y a personne qui peut le savoir non plus.
C'est sûr.
C'est comme, c'est rien, là, c'est dans l'air. On peut juste comme espérer, on peut absolument rien faire d'autre. Donc, c'est sûr que c'est assez différent, là.
Bon, on a évoqué le fait que tu fais pas mal de kilométrages sur la 20. Pourquoi aller s'entraîner à Québec? Parce que ça faisait longtemps que tu t'entraînais à INS Québec, là, à l'Institut national du sport.
Oui, bien, en fait, ça faisait un petit bout que j'y pensais. Je connaissais bien, je connais bien encore l'entraîneur à Québec. Notre philosophie puis notre façon de penser était très, très similaire, plus que les autres coachs que j'ai rencontrés. Puis j'avais besoin de changer d'environnement, en fait. Puis de vraiment... Tu sais, à l'INF, j'avais vraiment tout. C'est le meilleur centre au pays. Mais j'étais tout seul dans la piscine, je faisais mes profs d'entraînement, j'étais complètement isolée. Fait que moi, j'ai vraiment besoin, mais j'ai réalisé en fait que j'avais besoin d'avoir d'autres gens alentour de compétitionner avec d'autres personnes.
Je fais 12 ans que je suis seul, puis je comprends, mais ça, c'est une autre histoire. T'as trouvé difficile l'éloignement de l'eau, et pourtant, je lisais dans l'article de Sportcom que tu vas bientôt prendre des vacances. Alors, pourquoi t'as trouvé difficile de ne pas nager et que déjà, alors que t'as recommencé à nager quelques semaines, tu planifies déjà des vacances?
Ben, c'est pas vraiment des vacances, mais ce qui est encore plus difficile que le retour physique, c'est le retour mental. Puis, en fait, moi, il faut que je pense plus loin que Ah, ça fait 4 mois qu'il se passe pas grand-chose. Il faut que je pense pour l'année à venir. Puis, il reste 13 mois à peu près là, avant les Jeux.
Ouais.
Puis, à mon âge, faire une saison de 13 mois, c'est un suicide. Là. Moi, je ne peux pas être aussi focus. C'est très difficile.
Je comprends.
Seulement depuis que je suis à Québec, je suis isolée. De mes amis, ma famille, je n'ai pas une vie sociale comme j'avais. Donc, tout ce que je fais là-bas, c'est de la natation. Mm-hmm. Puis, je peux pas faire ça 14 mois d'affilée. Surtout, l'été, c'est encore plus difficile. T'sais, moi, je suis prête, là, le 1er septembre. Je sais que je m'en vais là-bas, puis je reviens plus. Puis, tu sais, c'est ma priorité, puis je suis prête pour ça. Mais jusqu'à là, par exemple, j'aime mieux maintenir une forme, nager quand je peux, mais au moins être dans mes affaires. Être avec ma famille, voir mes amis.
Bien sûr.
Puis essayer d'être plus, d'avoir plus un équilibre entre le retour et la vraie vie. Là.
À quand remonte ta dernière médaille, Aurélie?
Ma dernière médaille, probablement les championnats du monde. Là,
ça, en c'est nous, en nous. Donc, est-ce que maintenant là, que tu es en train de le vivre, là, ça fait un an, tu n'es pas habitué à ça, là, je veux dire.
Non.
Est-ce que tu peux imaginer une vie sans médaille?
Une vie sans médaille, oui. Une vie sans compétition, moins. Puis une vie sans natation, encore moins.
Mais ça, t'aimes l'eau. Ça, tu l'as toujours dit, ouais, t'aimes nager.
Ouais. Ben oui, j'aime nager. Je veux dire, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Là.
Est-ce que la solution... bon, je comprends qu'on peut pas s'entraîner 13-14 mois à fond, mais j'imagine que tu vas te fixer des objectifs, même si c'est juste à Québec... Un bon temps à Québec, puis un bon temps en Hollande, ça demeure un bon temps. T'es pas obligé d'attendre à Tokyo.
Non, c'est ça. Fait que, dans le fond, il faut juste comme repenser notre horaire, repenser les objectifs. Parce que oui, c'est différent, ça ne reviendra sûrement pas, en tout cas pas d'ici un an.
Ouais.
Fait que, oui, là, va falloir que je trouve une façon d'être motivée, mais au PEPS et non dans un autre pays. Puis de m'inventer des compétiteurs ou juste de compétitionner avec des gars, des fois ça fait encore une meilleure job. Fait que oui, c'est techniquement, on n'a pas de compétition avant le mois de décembre, donc c'est sûr qu'on va en faire des intras, là,
ouais,
un peu.
Ouais.
Si on...
Je comprends.
Puis essayer juste de comme revoir la façon que j'avais de compétitionner.
Ben, profite bien de ta pause maintenant que tu sais que ça va reprendre quand même en septembre, c'est déjà ça, parce que
ouais.
Au printemps, quand on a arrêté, on ne savait même pas quand la vie était pour reprendre. Aurélie Rivard, lâche pas, nous on s'arrête pour une pause. De l'autre côté, entre autres, François Beauregard et du Vincent Chouinard.
Vous écoutez Accès libre.
Pas les choses changent, les jeunes qui s'éloignent de l'Allemagne à l'Espagne jusque dans les bords de Val d'Or, puis ça devient mari et femme. Tout attend jusqu'au prochain drame. Fais-toi-en pas, les choses changent. Le gars que tu fréquentes fait quelques poussées, puis s'endort. Le problème, c'est qu'il y a la paresse en chaleur, des compromis tu peux en faire, mais pas pour ça. Je sais que c'est tough des fois, mais prends une petite pof ou ben bois, ça regarde que toi. Veux-tu passer ta vie à imaginer le pire? T'as rien à perdre, puis tu le sais déjà. Fais-toi-en pas, les choses changent, je te jure. Du jour au lendemain, de l'extase à la vie dure. C'est normal de sortir des sentiers battus, la forêt plus dense que prévu, une écharde dans le. Les choses changent, t'es un peu cassé en ce moment, t'es en retard, si t'es paiement, la paye est loin, mais ça va. T'as pas besoin d'être stressé, c'est mieux d'être un peu paumé que d'être mal accompagné. Je sais que c'est tough des fois, mais prends une petite pof ou ben bois,
ça regarde que toi. Veux-tu passer ta vie à imaginer le pire? T'as rien à perdre et puis tu le sais déjà.
J'ai essayé de la faire, la note, mais je ne l'ai pas eu. Désolé, Denise, à la réception. Monsieur la Liberté, c'est mon verre d'oreille depuis 2-3 semaines. Je dirais, ben, en fait, tiens, ton opinion avant.
Musicalement, ça me ramène quelques années en arrière. Il y a un petit, une petite mélodie un peu old school, hip-hop francophone des fin des années 90.
OK. Peut-être Antoine Graton aussi, peut-être. Je sais pas, me semble.
Ouais. C'est, ça se peut. Sinon, ben, je trouve très jolie la pochette du single.
Ben, mais encore.
Est-ce qu'il faut que je la décrive?
Ben, sinon, je ben, la non. Non, mais tu nous dis que tu as trouvé. Est-ce qu'on peut, oui, décrire la donc?
Bon, ben, on voit le Vincent en question, Vincent Chouinard, qui est accroupi dans un parc avec des cerceaux, des gros cerceaux en métal, le genre que j'imagine on peut grimper quand on est très petit, mais c'est très symétrique comme photo. Je trouve que la photo est bien prise.
OK. Disons, inachevé comme chanson, les deux premières minutes sont vraiment bonnes. Après ça, j'ai l'impression qu'il fait du temps. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un gars à suivre. En tout cas, j'ai déjà hâte à l'album. Malheureusement, on n'a pas de date de sortie. Mais Vincent Chouinard, faites-vous-en pas. Monsieur Beauregard, comment allez-vous?
Ça va très bien vous-même.
Ah, écoute, on ne saurait mieux aller aujourd'hui. Ah, et voilà. Je trouve ça sympathique parce que tu nous parles d'un gars qui, malgré lui, a peut-être un rôle à jouer dans mon évolution, dans ma façon d'être. Non, mais c'est vrai.
Dans l'évolution, puis l'intégration de beaucoup, beaucoup de personnes handicapées visuelles, c'est sûr.
Benjamin Victor Rousselot.
Rousselot, qui a laissé son nom maintenant à un CHSLD, à un parc, une rue, ainsi de suite. Alors, Curé Rousselot est le fondateur, ou l'un des fondateur de ce qui deviendra éventuellement l'INLB moderne d'aujourd'hui. L'INLB, c'est la fusion de deux institutions à la fin des années 70, l'Institut Nazareth et Braille. Alors, lui, le curé Rousselot, a fondé avec les Sœurs Grises à Montréal l'Institut Nazareth. Alors, Rousselot est un Français né à Nantes, breton. Il fait des études chez les Sulpiciens. Il a une défaillance visuelle et une mauvaise santé. Okay. De quelle défaillance s'agit-il? Malgré toutes nos recherches, l'histoire ne semble pas l'avoir retenue. De toute façon, les diagnostics n'étaient pas terribles dans ce temps-là.
Dommage, parce que j'étais curieux, parce que bon, il a traversé le grand étang et je me disais, quand tu as un handicap visuel, de prendre le bateau, les tempêtes, ça ne devait pas être évident, ça prenait un certain courage.
Il était, semble-t-il, tout de même capable de lire l'écrit, mais incapable de poursuivre des études supérieures. Sur les images que l'on a de lui, on ne le voit jamais avec des lunettes, alors peut-être qu'il y a tellement de choses. Quoi qu'il en soit, son handicap lui a fermé certaines portes d'études supérieures, ce qui fait qu'il il est devenu vicaire dans une petite paroisse en Bretagne. Éventuellement, il arrive à Montréal au milieu des années 1800, 1850, en fait en 1854. Il est confesseur et aumônier des Sœurs Grises, de la Charité, qui sont à l'Hôpital Général de Montréal. Et en 1861, ils vont fonder l'asile Nazareth, qui est pour, au début, c'est pour toutes les personnes, tous les enfants démunis et pauvres.
Une sorte d'orphelinat, j'imagine?
Oui, exact. Ouais. L'édifice est situé là où aujourd'hui est la Place des Arts, un peu la place des festivals à Montréal, là, entre sur la rue Sainte-Catherine, entre Jeanne-Mance, Saint-Urbain, dans ce coin-là.
Okay.
Et après un an, il décide, avec les Sœurs Grises, d'avoir une classe toute spécifique pour les enfants aveugles. Et de fil en aiguille, cette spécialisation-là va donner naissance à l'hiver 1869, à ce qui deviendra l'Institut Nazareth spécialisé dans l'éducation des jeunes aveugles. Et dès le début, on va utiliser la méthode de Louis Braille. Qui
avait été accepté qui était sur le point de, je me souviens plus de l'année exacte là, mais ça a pris un certain temps, on parle de 1825 là, au départ.
Un conflit.
Ben oui, les profs voulaient pas.
Ben, il y avait l'idée d'avoir des lettres romaines en relief, mm-hmm. là, plutôt que d'avoir des points. Alors, dès le début, à l'Institut Nazareth à Montréal, ce fut la méthode de Louis Braille.
Ouais.
Même que des professeurs de musique aussi, M. Le Tondal, professeur de musique qui est diplômé de l'Institut Louis Braille à Paris, est venu à Montréal à l'Institut Nazareth. Par la suite, la carrière de Rousselot a été consacrée à toutes sortes de belles œuvres.
Mais juste avant, j'ai envie, puis je veux pas le discréditer, oui. mais on sait comment... jusqu'à tout récemment, on a tendance à donner des éloges et créditer aux hommes.
Oui, voilà.
Alors, je me demandais, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il a fait dans la fondation? Parce qu'il était aumônier, il a juste dit aux filles, faites le don.
Ben, il a travaillé à ça. Après ça, il a travaillé à la fondation d'orphelinat, à ce qui est devenu l'hôpital Notre-Dame de Montréal, mm-hmm. à ce qui allait éventuellement devenir l'équivalent de l'école des hautes études commerciales. Alors, Il a travaillé à beaucoup d'œuvres d'éducation, mais c'est vrai que oui, pour ce qui est de l'Institut Nazareth, c'est facile de dire le curé Rousselot et les Sœurs Grises. Puis là, ça met toutes ces dames dans le même mot, là, sans qu'aucune ne se distingue. Alors que pourtant, c'est probablement elle qui faisait une grande partie du travail sur le terrain.
Hein? D'ailleurs, c'est elle qui... À Nazareth, bon, moi qui ai fréquenté Nazareth au primaire, c'était comme ça que ça se passait... quand j'étais petit, c'était vraiment les Sœurs Grises qui étaient là. Ce sont les Sœurs Grises qui, de 1861 à 1975, ont tenu Nazareth à bout de bras comme école privée. Il y avait les Clercs Saint-Viateur qui avaient décidé, eux, de prendre les garçons au secondaire, mais ils ne voulaient pas, les Clercs Saint-Viateur, prendre les garçons plus jeunes. Alors, les Sœurs Grises, qui, elles, voulaient au départ faire une école pour filles, on s'en dit, ben, on n'est pas pour les laisser dans la rue, donc on va les prendre.
Voilà. Alors, mais malheureusement, l'histoire n'a retenu que le nom du curé Rousselot et non pas des éducatrices des Sœurs Grises. Mm-hmm. Il y a un aspect anonyme là-dedans. Oui, puis ça fait peut-être partie d'autres inégalités au sein de la hiérarchie et de l'histoire.
Parce que il était aumônier pour les Sœurs Grises.
Sœurs Grises. Après ça, il est devenu curé de la paroisse Notre-Dame. Évidemment, ça, c'est l'église Notre-Dame sur la place d'Armes à Montréal. Il faut comprendre qu'au début, la paroisse Notre-Dame, à cette époque, était la seule paroisse de Montréal. Toutes les autres églises étaient comme des succursales.
Alors, on peut présumer qu'il était vraiment important. Le gars, il avait le pied lourd.
Il était vraiment important, d'un point de vue politique, ecclésiastique, il se tenait plutôt dans l'ombre. Plutôt Mgr Bourget et les Sulpiciens chicanés. Lui était plutôt consacré. Il se consacrait davantage à la rénovation de son église et à des tâches plutôt éducatives. Alors, mais tout de même, il a, associé son nom à ce qui est devenu l'Institut Nazareth, qui est devenu une excellente école de musique par la suite.
C'est vrai, c'est vrai.
Au début du 20e siècle.
Vraiment, là, il y a des musiciens qui ont fait le conservatoire. Ça a été très, très bon.
Ça a été une école de musique réputée. Plus tard, au début des années 50, il y a eu l'école Louis Braille, qui, elle, était issue d'une œuvre philanthropique qui venait plutôt de l'ouest de la ville avec des gens qui habitaient sur la montagne. Puis éventuellement, les deux se sont fusionnés sous l'impulsion de l'État qui voulait plutôt intégrer tous les services. Alors, c'est à ce moment-là que les Sœurs Grises ont laissé la gestion de Nazareth. C'est comme ça que l'INLB moderne a commencé à prendre forme. Puis aujourd'hui, on dit INLB, là, mais ça remonte à loin.
Voilà. Oui, puis en fait, ce serait peut-être même plus Jacques Ouellet, parce que INLB, maintenant, oui. Ce n'est plus de la scolarisation, c'est le nom qui est resté.
La scolarisation, c'est juste maintenant l'école Jacques Ouellet sur la rive sud de Montréal.
Et Saint-Enfant-Jésus avec quelques classes à Montréal. Mm-hmm. Il est né en 1823, mort en 1889, je présume qu'il est mort à Montréal?
Il est mort à Montréal 31 août 89. Il a eu une carrière bien remplie malgré ses difficultés de santé, là où sa vue défaillante. Il a été très actif toute sa carrière à Montréal. Il a travaillé, comme je le mentionnais, à fonder ce qui allait devenir l'hôpital Notre-Dame, l'Académie commerciale catholique de Montréal, une partie de ce qui deviendra plus tard l'École polytechnique de Montréal.
Quand même.
Alors, il était assez travaillant, assez battant dans le domaine de l'éducation. Il a fondé un orphelinat en milieu rural au début des années 1880. Il a fait toutes sortes de choses de ce côté-là. Alors, en plus d'avoir la charge de l'Église Notre-Dame d'avoir démarré, en fait, l'Institut Nazareth, c'est comme un de ses premiers projets. Mm-hmm. Et après ça, il est allé faire autre chose. Alors, avait-il gardé un intérêt particulier pour les jeunes aveugles montréalais? Ça, on ne le sait pas.
Est-ce qu'on sait, et c'est correct si tu ne le sais pas, comme l'asile Nazareth a, disons, précisé sa raison d'être assez rapidement, qu'est-il advenu de tous ces enfants qui n'étaient pas aveugles?
C'était un orphelinat qui était dans un sens plus large, puis après ça, ils ont été mis... Parce que l'orphelinat lui-même a existé quand même pendant un bout de temps.
OK, donc on les a gardés, les autres. Là. On les a pas mis dehors parce qu'ils n'étaient pas aveugles.
Non, exact. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'intérieur de l'orphelinat, il y avait certains des jeunes qui étaient aveugles. Alors, ils ont commencé à se dire, il faut leur donner une éducation spécialisée.
Bien sûr.
Ça ne marchera pas s'ils sont en classe avec les autres. Dans ce temps-là, l'intégration scolaire, c'était pas ça le truc. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu une classe spécialisée pour les jeunes enfants aveugles, mais ça n'enlève rien aux autres.
Ouais.
Et de notre point de vue à nous, handicapés visuels, ce qui nous intéresse, c'est que cette classe pour jeunes enfants aveugles allait devenir ce qui est l'INLB aujourd'hui. Là.
C'est drôle parce que j'aimerais ça, évidemment, j'aimerais être un petit oiseau et pouvoir retourner en arrière parce que je me demande même si ce ne seraient pas les Sœurs Grises qui se disaient « Ce serait important d'aider ces enfants-là, d'aider les enfants aveugles. On va s'allier quelqu'un d'important à la cause, quelque chose comme ça. » On peut pas le savoir, mais c'est une époque où tout était à faire, vraiment.
Oui.
C'est fascinant.
Et il est vrai que l'institution des Sœurs Grises, là, c'est dans un sens large et... anonyme.
Oui. Mais on comprend, avec tout ce que tu nous as dit, pourquoi il y a autant d'endroits à Montréal qui portent son nom. Là, vraiment, il y en a beaucoup. Alors, je ne savais pas qu'il se prénommait Benjamin Victor Rousselot, par exemple. Ça, j'ai appris ça cette fin de semaine.
Dans ce temps-là, il était le sixième d'une famille. Alors, voilà, il était le Benjamin.
Merci, M. Beauregard. Vous savez qu'on se parle la semaine prochaine?
Oui, on va parler d'argent.
Ben c'est ça, ça sera pas de l'histoire, ça va être des grosses finances. François est bon c'est là-dedans aussi. Salut.
Merci. Bye.
Parce que tu peux comprendre tout ce que ça représente. Patience et temps, entre les lignes, la main qui tremble et qui souligne. Je t'en dis plus en t'écrivant, je l'ai jamais fait en te parlant, car c'est ma toute première lettre de toute ma vie. C'est ma toute première lettre de toute ma vie. C'est beau, c'est comme si on se trouvait là. On dirait je veux tout dire, les jours de joie ou de misère, des mots pour dire l'amour, des mots pour dire la terre, car c'est ma toute première lettre de toute ma vie. C'est ma toute première lettre de toute ma vie. Croiser sur mon chemin tous les mots du bonheur, les pays.
Charles Seguin sur Canal M, Madame Campagna, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Je vais bien, je vais très bien.
Tu nous parles de plein de choses, dont le masque. Qui est dans ma poche en ce moment.
C'est qu'on entend toutes sortes de choses à propos du masque, à propos des exceptions. On a même, il y a même des gens, si tu te rappelles, je t'avais parlé, aux États-Unis, les gens s'étaient munis de fausses cartes qui invoquaient l'American Disability Act, tout ça. Ben ici, il y a des gens qui se sont munis de fausses lettres qui disaient que ils n'avaient pas de loi cadre sur leur handicap à invoquer, alors ils invoquaient la Commission des droits de la personne.
Il y a quand même des normes que le gouvernement a mises de l'avant, des normes qui n'ont pas nécessairement été très, très ébruitées, mais à coup de pas, je vais le dire, il y a deux semaines, on a fait une entrevue, puis c'est après l'entrevue que j'ai réalisé qui pouvait, qui ne pouvait pas, qui était exempté du masque dans le transport adapté, entre autres choses.
Ben voilà, pour éclaircir ça,
ben oui.
Il y a un message provenant de l'Office des personnes handicapées du Québec qui a été envoyé aux commerçants. C'est Isabelle Perrin, une mère très impliquée dans le domaine, elle a une fille qui a une déficience intellectuelle, qui a publié ça sur la page d'un organisme. Donc, la lettre rappelle les exceptions. Il est utile de rappeler que sont exemptées de cette obligation les personnes ayant une incapacité significative qui les empêche de porter un masque de façon sécuritaire. Par exemple, parmi ces personnes, nous retrouvons les personnes ayant une maladie cardio-respiratoire sévère, les personnes ayant des problèmes d'hypersalivation sévère, les personnes qui ne peuvent mettre ou retirer par elles-mêmes un masque, comme celles ayant un problème de mobilité du haut du corps, ou les personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble cognitif sévère qui ne sont pas en mesure de porter le masque de façon sécuritaire. Et l'OPHQ précise dans sa lettre que les personnes ne sont pas tenues de présenter une preuve
c'est
ou un
billet
médical.
C'est là où ça se complique, je trouve.
Ben, c'est que le danger, c'est que des personnes l'invoquent alors que ce n'est pas vrai.
Mais c'est tellement facile.
Ça dépend du type de condition. Il y a des conditions où, quand on parle de l'incapacité de le mettre ou de l'enlever, ça, c'est plus évident.
J'ai une amie, là, Christiane, on ne peut plus parler de masque. Sinon, j'ai vraiment l'impression qu'on ne sera plus des amis. C'est fou comment cet enjeu-là sort le lait de l'être humain. J'exagère, là, mais à peine.
Il y a des personnes qui ont comparé ça aux troubles d'opposition chez les enfants. Mais sûr que ça dure après 3 et 4 ans, là, que c'est vraiment un diagnostic. Et quand on lit la liste des symptômes, ça, ça coïncide parfois.
Ouais.
Il existe différentes affiches indiquant que le masque est obligatoire et l'OPHQ invite à privilégier le modèle mentionnant l'existence des exemptions. Voilà, c'était un résumé au fond là, des exceptions existantes.
Moi, ma crainte, c'est que c'est ça. Plus il y a d'affiches qui expliquent les exceptions, plus il y a des gens qui vont trouver une façon d'essayer d'être exemptés. Là. Mais
c'est
bon.
Comme ben, je me demandais ce matin dans le métro pourquoi la STM a annoncé qu'elle n'avait pas les moyens coercitifs de forcer les gens, qu'elle n'allait pas l'appliquer. Pourquoi le dire?
C'est sûr.
Mais ceci, j'ai vu un monsieur qui le portait seulement sur la bouche et une dame qui ne l'avait pas dans le métro ce matin.
OK, mais quand même, c'est bon ça.
C'est un bon pourcentage
Là. Sinon?
Sinon, ben hier, c'était le 30e anniversaire de l'Americans with Disability Act, l'ADA, et ça a été très présent dans la presse, les différents sites web de médias, puis je voulais peut-être rapidement parcourir des choses que j'ai lues à ce sujet-là. Plusieurs ont rappelé que le président qui a signé la loi, George H.W. Bush, qu'on appelle aussi Bush père, qu'il a lui-même bénéficié de cette accessibilité, lorsqu'il plus tard, il a dû se déplacer en fauteuil roulant à cause de la maladie de Parkinson.
Alors, c'est souvent le cas, d'ailleurs.
Ben voilà, c'est rappel que l'accessibilité concerne tout le monde parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que...
Un accident de voiture, c'est si vite arrivé.
Exactement. Il y a un article de Fast Company qui souligne que 30 ans plus tard, le design des villes est toujours déficient, des trottoirs inaccessibles, des intersections inaccessibles, et que ce qui a pris un retard considérable et qui était prévu dans la loi, c'est l'obligation des villes de créer un plan d'accessibilité.
C'était prévu dans la loi. Ça ressemble tellement à des conversations qu'on a eues ici, ça.
Exactement. Ouais. Mais qu'on se contente, au fond, d'appliquer l'accessibilité quand on fait des réfections, quand on construit de nouvelles choses. Mais que depuis 2015, le gouvernement fédéral fait un peu plus de pression. Et l'autre chose qui amène plus de pression au cours des dernières années, c'est la multiplication des poursuites. C'est un peu un des problèmes de cette loi-là, c'est qu'elle fonctionne beaucoup par plainte et poursuite.
Oui.
Et le risque qui vient avec ça, c'est l'interprétation par les juges qui peut varier d'un endroit à l'autre. Encore plus dans les choses qui n'étaient pas prévues par la loi parce que c'est 1990 et donc on n'avait pas prévu le commerce en ligne.
Bien sûr.
On avait, pour ces choses-là, on est vraiment à la merci de l'interprétation des juges. Et à ce compte-là, ben au fond, il y avait une petite révision de la loi à la fin des années... au milieu des années 2000 par George Bush fils, mais qu'on serait peut-être dû pour une nouvelle mise à jour de cette loi-là. Il y a un texte d'opinion dans le Washington Post qui souligne vraiment le caractère largement environnemental.
Dans le sens de l'environnement, le bâti, pas l'environnement, les gaz à effet de serre.
Non, mais dans le sens où on cite beaucoup une autrice qui raconte, elle a écrit un livre sur toutes les solutions qu'on a essayées au fil de l'histoire pour guérir la surdité. Et on souligne que ce que l'ADA a permis, c'est de mettre en lumière le fait que le handicap il est souvent plus extérieur et qu'il faut arrêter de vouloir guérir la personne et de vouloir lui faciliter la vie. Il y a le New York Times qui a présenté toute une série de textes dans le cadre d'un dossier spécial. On souligne entre autres la question des entreprises, souvent des grandes compagnies qui se font de bonne presse en créant des programmes spéciaux pour l'embauche de personnes en situation de handicap, mais souvent en créant comme un département spécial ou en donnant systématiquement aux personnes un emploi lié souvent à un stéréotype qu'on associe à un handicap, par exemple à l'autisme, on va mettre systématiquement les gens à l'entrée de données ou à des tâches très répétitives, faisant fi peut-être de leurs ambitions personnelles. Et qu'on recrée, au fond, une discrimination à l'intérieur de l'entreprise. Et il y a des textes très intéressants sur la place des artistes en situation de handicap, que peut-être on est dû pour un... Il y a une seule artiste qui a gagné un Oscar, alors que les acteurs gagnent des Oscars pour jouer des personnes en situation handicapée. Ouais, ouais. Et on avait même remis en question son Oscar. Un critique avait dit « Qu'est-ce qu'elle mérite? Elle est sourde et elle a joué une personne sourde. »
Ouais, mais elle peut être plate en tabarouette à voir à l'écran, par exemple, parce que moi, je connais des gens dans la vraie vie qui sont plates. Et si t'es plate dans la vraie vie, tu peux facilement être plate sur un plateau.
Oui, tu peux ne pas jouer juste.
Ben, tout à fait.
Exactement.
Tout à fait. De toute façon, Charlie Chaplin, dans un concours d'imitation, je pense qu'il est terminé quatrième. Puis le concours, c'est d'imiter Charlie Chaplin. Merci beaucoup, Christiane. Merci d'avoir travaillé pour nous permettre de parler aux gens à qui on a parlé aujourd'hui. C'est aussi le travail de Christiane. Merci à Jean-Sébastien. Monsieur la Liberté, on se retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de juillet pour nous. Bonne semaine.